VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Il est midi à Bangui. Bonjour, bienvenue au Burkina Faso. La campagne pour la présidentielle du 29 novembre entre dans sa deuxième semaine. Il y a 14 candidats en lice pour ce premier scrutin post-Compaoré pour le géographe Drissa Diarra. Ce scrutin est le plus compétitif.
Le gouvernement de la transition joue, en tout cas dans la mesure de sa possibilité, la carte de la neutralité. Conséquence, dans cette présidentielle, les moyens de l'État ne peuvent être utilisés comme dans les temps passés en tant que tel. Donc cela remet du point de vue de l'utilisation des moyens de l'État, les véhicules, etc., les candidats sur un pied d'égalité. Conséquence, je peux dire que chaque candidat a sa chance du point de vue des moyens de base.
Drissa Traoré est un observateur burkinabé qui trouve que la campagne est ouverte, en tout cas pour les élections à venir au Burkina Faso. Les sénateurs rwandais ont adopté aujourd'hui à leur tour, après les députés, une modification de la constitution permettant donc au président Paul Kagame de se représenter en 2017 et de potentiellement diriger le pays jusqu'en 2034. Le Sénat a voté dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale le 29 octobre, les nouveaux articles 101 et 172 qui sont donc définitivement adoptés. Le nouvel article 101 fait passer de 5 à 7 ans le mandat présidentiel et en limite le nombre à 2. Mais le nouvel article 172 autorise le président en exercice à briguer un nouveau septennat en 2017 et à être réélu ensuite pour deux quinquennats conformément à l'article 101. Au Burundi, le directeur du groupe de presse Iwachu, un hebdomadaire à Bujumbura, a comparu hier devant la Cour suprême dans l'affaire du coup d'État manqué du 13 mai. Antoine Kabourae, qui a aussi la nationalité belge, est le seul responsable de la presse privée qui est resté dans la capitale burundaise. Après 4 heures d'audition, il est retourné chez lui, mais doit rester à la disposition de la justice. Sa défense affirme que rien ne peut l'impliquer dans ce putsch avorté. Nous avons joint à Bujumbura son avocat conseil, Maître Lambert Insabimana.
Rien ne le rattache à ces histoires de coup d'État. Seulement, nous craignons que ça le procède d'une manœuvre d'intimidation. Vu la situation dans laquelle nous sommes, c'est pratiquement le seul organe indépendant qui fonctionne pour le moment. Quand on commence à être convoqué dans des dossiers de coup d'État, alors qu'on est une personne qui n'a rien à voir avec tout cela, effectivement, si on est une personne raisonnable, il y a rien de s'inquiéter. Mais d'emblée, rien ne concernait les articles qui auraient diffusé ou envoyé pour l'audition d'aujourd'hui. Pour le moment, on ne peut pas divulguer tout ce qui faisait l'objet de cette instruction, mais précisément, le magistrat a vu visiblement qu'il n'y a aucune connexion de près ou de loin en rapport avec le coup d'État comme tel. Bien entendu, ça ne tient pas la route, pas du tout, parce qu'un journaliste est un journaliste. Je ne vois pas à quoi est-ce qu'il peut concourir à l'exécution d'un coup d'État.
Maître Lambert Nsabimana, avocat à Bujumbura.
VOA Afrique, en direct de Washington.
La mission de l'ONU en République centrafricaine devrait être renforcée par 300 casques bleus sénégalais à l'approche des élections de décembre. Félicie Passis-Zembrou.
Ces renforts font partie d'une force de réaction rapide de la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire. Ils seront redéployés pendant une période de 8 semaines et seront sur place dès que possible, a précisé le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, va demander le feu vert du Conseil. Celui-ci tenait lundi des consultations à huis clos sur la situation humanitaire et sécuritaire. L'Égypte devrait par ailleurs envoyer 750 soldats et la Mauritanie 140 policiers pour renforcer les 12 000 hommes de la MINUSCA. Ces renforts pourraient être sur place à temps pour une visite du pape François en Centrafrique les 29 et 30 novembre, si elle est maintenue. Le premier tour du scrutin présidentiel et des législatives est prévu le 27 décembre et un référendum le 13 décembre. Un éventuel second tour est prévu le 31 janvier 2016.
Le nouveau représentant spécial des Nations Unies en République démocratique du Congo est arrivé hier à Kinshasa, Eddy Sango.
Maman Sambo Sidikou succède à l'Allemand Martin Kobler, dont le mandat s'est achevé fin octobre. Ancien ministre des Affaires étrangères du Niger, M. Sidikou était à la tête de la mission de l'Union africaine en Somalie. Il a été nommé début octobre pour diriger la mission onusienne la plus importante au monde, avec près de 20 000 soldats et policiers. Il arrive en RDC alors que les relations avec Kinshasa sont tendues depuis plusieurs mois. Il y a eu des divergences sur la façon de lutter contre les groupes armés dans l'est du pays et des tensions politiques persistent autour de la tenue de la présidentielle censée avoir lieu en 2016. Dotée d'une brigade de quelques 3000 hommes, autorisée à recourir à la force, la MONUSCO a pour tâche de protéger les civils et de neutraliser la cinquantaine des milices dans l'est de la RDC.
Et nous en arrivons au dossier, de ce journal. En République démocratique du Congo, les populations de l'est du pays sont d'avis que les litiges fonciers sont l'une des causes profondes des conflits qui perdurent dans cette région. Mais depuis peu, de gros propriétaires fonciers permettent aux petits agriculteurs de cultiver leurs terres. Est-ce la solution au conflit de la terre? Le correspondant de la VOA, Nick Long, a visité l'un de ces projets agricoles rendus possibles grâce à des terres appartenant à l'épouse du président Joseph Kabila. Son reportage est rendu par Jacques Aristide.
Nous sommes à Kiroliroué, petit village situé dans la province du Nord Kivu. Trois fois par semaine, des petits agriculteurs se mettent en équipe pour travailler un lopin de terre mis à la disposition des paysans. Après avoir labouré le sol la semaine dernière, ils procèdent maintenant à la plantation de pommes de terre. Plus vite, braille le chef d'équipe, tandis que les membres du groupe se motivent les uns les autres. La Fédération des organisations des producteurs agricoles du Congo, la FOPAC en un mot, vient à leur aide. Elle apprend aux paysans les dernières techniques culturales et post-récolte. Mumbure Makuke est conseiller agricole à la FOPAC.
Le pâturage que vous avez vu, ça c'est pour la première dame de la République, Olive Lembe. Et lui a occupé une très grande partie où même la population devrait cultiver. Mais il a mis de quelques vaches, je peux dire que c'est pour garder ce pâturage.
Marie-Olive Lembe Kabila a donné le feu vert aux petits agriculteurs de cultiver une partie de ses terres. Un projet que l'épouse du président congolais a baptisé la ferme de l'espoir. De nombreux paysans ont peu d'accès à la terre, une bonne partie ayant été acquise par des éleveurs, souvent dans des conditions douteuses. Par la même occasion, le fermage, bail rural conclu entre un propriétaire et un preneur contre un loyer annuel, a beaucoup augmenté ces dernières années.
Par exemple, pour un hectare, on dit par saison, donc pendant 4 mois, vous allez payer 200 dollars. Beaucoup de gens ne sont pas en mesure, mais il y a des systèmes de faire les carrés. Un carré de 20 sur 20, vous allez louer ça à 10 dollars par saison.
La FOPAC tente d'éviter les conflits avec les éleveurs dont le bétail dévore souvent les champs.
Par exemple, là à côté, il y a des vaches, mais si nous cultivons, nous avons vu une fossée pour limiter le bétail de passer.
Même si les cultivateurs accueillent favorablement les nouvelles méthodes, ils déplorent toutefois le manque de fumier. Alors que 2 tonnes de semences améliorées de pommes de terre pour un hectare coûtent 1600 dollars. Josaphat Moussansa, un chercheur agricole, affirme que de nombreux agriculteurs ne peuvent pas se permettre de payer un loyer, encore moins d'acheter des tonnes de semences améliorées.
Il y a aussi une autre forme qui s'est faite, par exemple ce que j'ai vu au niveau des Ntamugenga, c'est que la personne va travailler, on lui accorde une lopée de terre, et lors de la récolte, la personne va être en mesure de laisser soit 20% de cette production au gérant.
Avec l'amélioration des techniques agricoles, les propriétaires fonciers ne veulent plus se contenter des 20% qu'ils perçoivent des récoltes. D'où l'appel des agriculteurs au gouvernement congolais. Il faut, disent-ils, un accès plus juste à la terre.
12h08 à Kinshasa.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le premier ministre français Manuel Valls a souligné aujourd'hui que le nombre de personnes impliquées dans les attentats de Paris vendredi était encore inconnu, évoquant sur une radio française l'hypothèse de complices en France et en Belgique. En dehors des 7 kamikazes tués vendredi sur le lieu de l'attentat, les enquêteurs traquent un homme, Salah Abdeslam, qui serait le 8e homme des 3 équipes ayant directement participé aux tueries et qui est visé par un mandat d'arrêt international. La France a demandé aux pays de l'Union européenne une participation militaire accrue sur cet théâtre d'opérations extérieures et demander leur appui dans la lutte contre le groupe État islamique en Irak et en Syrie. Enfin, la Russie a admis aujourd'hui que le crash de l'Airbus de la compagnie Metrojet dans le Sinaï, en Égypte, était un attentat. Le crash qui a eu lieu le 31 octobre dernier a fait 224 morts. La Russie a promis de trouver et de punir les responsables d'où qu'ils se cachent ou qu'ils se cachent dans le monde. Jean-Roger Bion à ce micro, merci de nous avoir suivis. Prochain journal dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.